Cette parabole est bien connue. Elle est souvent le sujet de prédication. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à des surprises? Eh bien, pourquoi pas? Alors, place à l'innovation pour une interprétation libre, mais respectueuse de la vérité. En nous replaçant d'abord dans la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, ou plutôt celle de ce mois. Nous sommes donc au mois de juillet, et c'est pour nous en France le mois de la fête nationale. Le 14 juillet, nous commémorons la Révolution. Outre le traditionnel défilé à Paris, les feux d'artifice, nous conservons à l'esprit les mots « liberté, égalité, fraternité ». Mais quel est le lien avec cette parabole? Effectivement, il n'est pas manifeste, au contraire. Pour la liberté, ici, on nous parle de seigneur et de serviteur. Pour l'égalité, on distribue à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au dernier 1. Pour la fraternité, chacun joue perso, comme on dit en termes sportifs. Pourtant, je vous assure, le lien entre cette célèbre maxime et la parabole existe. Certes, il est voilé, mais nous allons ensemble le découvrir avec l'interprétation théologique de ce texte. Ce texte qui nous invite aussi à relire non pas notre avenir, mais notre présent. Et d'abord dans cette relecture, plutôt au préalable, il nous faut démystifier une idée, une notion, et éviter aussi en même temps un contresens sur cette idée. C'est le concept du mot talent qui est ambigu. Et alors il faut clarifier sa définition. Pour les auditeurs de Jésus, ce mot signifie uniquement une monnaie. Euro, franc, dollar, yen, voilà. En français, ce mot désigne le talent désigne aussi un don, c'est ça plutôt. Ça désigne un don, une capacité à faire quelque chose. Le talent pour la musique, pour la menuiserie, pour le jardinage. Dès lors, trop souvent, la prédication glisse sur ce jeu de mots pour dériver vers la notion de don. Le don d'enseignement des enfants, le don pour le chant, ou la direction, ou la conduite du chant, ou tout autre charisme. Encore une fois, soyons clairs. Dans la bouche de Jésus, le terme « talent » faisait référence uniquement à une monnaie. Poursuivons d'ailleurs dans ce domaine, celui de la monnaie. Et pour éviter le contresens dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous invite à suivre un peu d'arithmétique évangélique. J'appelle comme ça. Un talent correspond à 6000 deniers. Ce qui veut dire que ça correspond à 6000 journées de travail. Soit aussi 20 ans de travail. Alors, 2 talents, ça correspond à 40 années de travail. Donc, on est dans des chiffres extraordinaires. Et c'est surprenant, parce que Jésus utilise souvent des images qui sont du quotidien. Le grain de blé, la brebis. Et ici, on est dans l'énorme, l'impalpable, l'inimaginable. Mais le projet de Jésus, c'est de créer un électrochoc, d'échapper à toute comptabilité humaine. Pas de comparaison possible. Chiffrage illusoire et inutile. Donc c'est une histoire nouvelle, une histoire hors de nos cadres habituels, qu'ils soient cartésiens, qu'ils soient d'ailleurs humanistes. Voilà. Alors, tout justement, qu'en est-il vraiment de cette histoire, de cette intrigue? Cette parabole se décompose en trois temps. Au départ du Seigneur, en l'absence du Seigneur, et au retour du Seigneur. Et je vous invite à revoir ces trois temps. Au départ du Seigneur. L'histoire est entièrement conditionnée par ce départ. Sinon, il n'y a pas d'intrigue. Il remet à ses serviteurs l'ensemble de ses biens, et par cet acte radical, entier, le Seigneur manifeste sa confiance. Les serviteurs sont reconnus dans leur singularité. En effet, la somme confiée est logiquement répartie, en fonction de leur capacité. Et ainsi, aucun ne reçoit une mission hors de sa portée. Voilà un véritable acte de justice. Chacun est en situation de réussir. Mais réussir quoi ? Il n'y a pas de consigne à ce sujet. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de performance à atteindre. L'essentiel à retenir, c'est que chaque serviteur est placé devant ses responsabilités et jouit d'une totale liberté. En l'absence du Seigneur, aussitôt, c'est ce qu'il nous est dit dans le verset 16, je crois, aussitôt le Seigneur partit, et bien voilà. Voilà que ce don suscite une mise en œuvre. Oui, la confiance témoignée oblige les serviteurs à transformer le don en dynamique productive. Les deux premiers serviteurs reprennent à leur compte la logique économique initiée par leur Seigneur. Puisqu'il s'agit d'argent, ils raisonnent en argentier. Il faut faire travailler l'argent et ils doublent leur gain. Effectivement, il y a une différence d'ailleurs sur leur attribution, hein, mais peu importe dans le récit. Ce qui est important, c'est le principe multiplicateur. Soit les serviteurs s'activent, et même le troisième. Mais lui, il poursuit un autre raisonnement économique. Il choisit, lui, le statu quo. Il comprend ce don comme un bien à préserver, un trésor autosuffisant. Il n'agit pas comme si c'était un bien qui pourrait produire une promesse. Il n'en attend rien du tout. Soit, dans ce deuxième temps, l'action des serviteurs est révélatrice, déterminante pour la suite de l'histoire. Le don initial, donc, engendre le mouvement et les serviteurs ont agi librement. Postulat de base. Les deux premiers ont confié leur talent à un système économique rentable. Ils se sont mêlés aux autres. Ils ont porté leur talent au cœur du monde. Le troisième n'a interagi avec rien ni personne. Il a suspendu le désir de son Seigneur. Il a enterré toute possibilité de le laisser agir dans son existence. Le temps 3, au retour du Seigneur. Les deux premiers serviteurs présentent les talents supplémentaires. Tenez-vous bien, on ne parle plus du capital attribué. On parle de quoi ? On parle en jeu, J-E, pas nous, je. Dans ce moment, que l'on pourrait appeler règlement de compte, dans ce moment, l'essentiel n'est pas dans le calcul, 5 plus 5, 2 plus 2. L'essentiel est dans la relation interpersonnelle, relation entre le juge et le serviteur. Certes aussi, on parle aussi de responsabilité assurée face à l'action. Et donc, pour revenir au jugement, ce qui est déterminant, ce n'est pas le résultat. mais c'est la démarche, le parcours effectué. Leur décision de faire travailler les talents et les valider. Chacun d'eux est jugé bon et fidèle pour les deux premiers. Et leur récompense est tout compte fait la prolongation de leur parcours. Le Seigneur les associe à sa gloire et ses richesses. Il maintient avec eux une solidarité entière. Invitation aussi leur est faite d'entrer dans la joie de leur Seigneur. C'est la joie de la rencontre avec Dieu, c'est la joie de sa présence. Vient le tour donc du troisième. Reconnu dans sa singularité, il prend la parole librement, devant son maître, bien sûr. Et sa déclaration explique a posteriori son choix d'enterrer le talent confié. Le serviteur était donc dans la même logique économique. Mais il n'en a pas déduit le même comportement, le même mouvement. Un seul mot résume son attitude, la peur. Aucune appropriation, aucune confiance. Voici ton bien. Plus encore, cette peur l'a paralysé et interdit à toute initiative. Maintenant, c'est au tour du Seigneur de prendre la parole. Il condamne immédiatement ce serviteur en le déclarant mauvais et timoré. Mais il ne le juge pas directement. C'est le serviteur lui-même, par ses paroles utilisées quand il décrit son maître, qui tire ses conclusions et qui mesure à ce moment-là son inconséquence. Jésus, au travers de cette parabole, expose bien la désolation qui menace ce serviteur irresponsable, paresseux. Mais en réalité, Jésus ne brandit pas ce jugement eschatologique comme une menace, mais comme un appel à reconsidérer sa vie, à reconsidérer notre vie à la lumière de la joie promise. C'est donc plutôt une alerte pédagogique. Oui, cette mise en perspective de la vie, mise en perspective quant au royaume à venir, est essentielle pour la compréhension de cette parabole. Nous sommes aujourd'hui encore au bénéfice d'une compréhension renouvelée de l'enseignement des évangiles. Cette compréhension se résume en deux points. Deux points qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Nous allons les reprendre brièvement. On les reprend d'ailleurs en écoutant Jésus qui s'adresse à nous. Ce que je vous confie n'a pas de prix. Sa valeur dépasse toute imagination. Mais aussi la confiance que je vous fais est immense. Ce que je vous confie n'a pas de prix. Il s'agit purement et simplement de l'Évangile, ce don inouï qui fait que nous sommes sauvés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet acte de Dieu qui est pure folie pour les hommes sages, cette décision de Dieu qui est pur scandale pour les religieux de l'époque, cet évangile du salut, donc, je vous le confie jusqu'à mon retour. Et nous comprenons mieux alors ce que nous dit Paul dans Corinthiens, mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance du salut soit attribuée à Dieu et non à nous-mêmes. Plus encore, le fait que le Seigneur confie à ses serviteurs ce trésor inestimable témoigne aussi de l'amour pour nous. avec la transmission donc de l'Évangile, d'une valeur inestimable, Dieu, par Jésus-Christ, nous manifeste sa confiance. Autrement dit, avec ce don, le don de l'Évangile, Dieu nous prouve son incomparable amour par l'œuvre rédemptrice à la croix en Jésus-Christ son Fils. Et du coup, nous comprenons mieux l'enchaînement avec le deuxième point à retenir de cette parabole. En effet, le fait de devoir gérer l'Évangile dans ce climat de confiance et d'amour nous renouvelle. Place au courage, à l'initiative, à l'inventivité dans la liberté. Et pour mieux intégrer cette notion de liberté, l'expérience du troisième serviteur nous éclaire. Il a mesuré l'énormité de l'Évangile, mais il a eu peur de le perdre. Il n'a pas compris son message, à savoir qu'entre le Christ et lui, il n'y avait plus de jugement. Que l'Évangile le faisait passer dans l'économie de la grâce et non dans celle des comptes à rendre. Alors il s'est réfugié sous la loi de l'Ancien Testament qui interdit le prêt. Il n'a pas compris que l'Évangile, dans son message, nous libère de la loi, de notre situation d'homme pécheur. Voici ce que Paul et Jean nous disent d'ailleurs à ce sujet. Ceux qui se placent sous la loi seront jugés par la loi. Celui qui se place dans la liberté que donne l'Évangile est dès maintenant placé dans la vie éternelle. Il n'est pas jugé car il est passé de la mort à la vie. Oui, l'important n'est pas la performance, le parcours sans faute, mais c'est de vivre dans la liberté des enfants de Dieu et de gérer l'Évangile que nous avons reçu en partage, dans la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Rappelons-nous toujours que l'Évangile qui nous est remis est sans prix. Mais nous pouvons assurer cette mission d'engagement dans la joie et la tranquillité sans nous réfugier dans la crainte. Alors, vivons dans la liberté de l'Évangile, liberté inventive et tranquille de ceux qui sont appelés, non plus serviteurs, mais filles et fils adoptifs de Dieu. Enfin, pour ouvrir et nourrir notre réflexion, je vous invite à reconsidérer notre vie à la lumière de la joie promise. Entre dans la joie de ton Seigneur. Il est notre liberté en Jésus-Christ. Il est notre justice ou égalité par Jésus-Christ. Il est notre fraternité, notre solidarité, notre altérité, car il nous aime. Amen.